Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, je vous propose de décrypter quelques mécanismes de la publicité alimentaire, ces spots télévisés qui nous racontent des histoires. À l'aide notamment des neurosciences et du storytelling, nous essaierons de comprendre comment les publicitaires tentent de nous convaincre, de nous influencer, de nous manipuler, avec notre consentement ou contre notre gré. Campagne de publicité à l'appui, nous analyserons les récits mis en œuvre pour nous pousser à consommer des produits alimentaires qui jouent souvent avec la carte de la santé et de la nutrition. Nous verrons également quelques techniques publicitaires qui poussent les enfants à choisir telle marque de céréales ou de boissons sucrées. Nous attendons vos questions et réactions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Colline et Josué attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez la chronique de Julia Foyce, Il était une fois dans le web.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
En ce temps-là, on mettait des photographies géantes sur les murs. Les arrêts d'autobus, les camions, les taxis. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre la naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. Il avait fallu 2000 ans pour en arriver là.
Un extrait du film 99 francs de Yann Kounen, adapté du roman de l'écrivain Frédéric Becbédé. Bonjour Franck Tapiro.
Bonjour.
Vous êtes publicitaire et vous avez créé l'agence Dakata Lab, une agence de conseil qui s'appuie sur les neurosciences. Vous ressemblez au personnage interprété par Jean Dujardin dans 99 francs.
Ah non, pas du tout. C'est une caricature assez drôle, une caricature de notre métier, mais les caricatures partent en général de points réels qu'on exagère un peu.
Vous êtes un gentil publicitaire.
Ah ben, gentil publicitaire, oui, puisque la publicité, il y a deux façons de la voir, ou on la voit du côté négatif, on dit que c'est de la manipulation, mais à ce moment-là, on est tous complices de cette manipulation, ou alors on essaie de, comme moi, d'essayer de la faire le mieux possible avec beaucoup de bienveillance.
Bonjour Michel Desmurgés.
Bonjour.
Expert éclairé de l'émission, vous êtes chercheur en neurosciences cognitives, directeur de recherche à l'INSERM et au CNRS. En 2011, vous aviez publié TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision, disponible en poche. Bonjour Guillaume Lamar.
Bonjour Ali.
Vous êtes consultant en storytelling, formateur et directeur artistique, et vous avez récemment publié La voix du créatif chez Pyramide Éditions. Bonjour Bernard Roulet.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en neurosciences du consommateur à l'Université de Bretagne Sud et vous êtes en duplex de France Bleu à Rennes. Merci aux équipes techniques sur place. La publicité joue avec nos faiblesses et nos penchants et nous sommes parfois des victimes consentantes, Franck Tapiro.
Oui, bien entendu, on est victime consentante, mais on fait tous partie de voilà de ce monde-là, de la consommation, de la communication. Donc il faut le prendre, il y a deux façons de le faire, ou encore une fois je disais bienveillante, ou alors essayer de voir le mal partout. Moi je suis rentré dans ce métier d'abord pas parce que j'aimais la pub, mais parce que j'aimais les marques. J'ai écrit un bouquin là-dessus il y a quelques années qui s'appelle « Pourquoi la vache qui rit ne pleure jamais ?» et qui explique que les marques sont des êtres vivants, des créatures vivantes, avec des gènes, exactement l'ADN. Moi j'avais inventé à cette époque-là l'authentique différence naturelle, je m'étais autorisé cet acronyme. D'ailleurs Daniel Cohen, le généticien, avait préfacé mon livre, pour expliquer que les marques ce sont aussi des êtres vivants avec des émotions, avec de la relation, avec des hauts, des bas, voilà, une relation que les marques entretiennent avec leur public. Bien entendu, à nous de faire en sorte que cette relation soit la plus positive et bienveillante possible.
Quel est le grand défi spécifique que doit relever la publicité alimentaire télévisée pour nous convaincre? Vous me disiez hors antenne que le niveau de la pub alimentaire avait vraiment chuté ces dernières années.
Ah, on peut le dire, je balaye souvent devant ma porte, j'essaye avec mes collègues de
faire monter le niveau. Vous parlez même des dégénérescences.
Mais c'est une dégénérescence absolue de la publicité alimentaire en particulier. D'autres domaines, mais la publicité alimentaire, depuis combien d'années on n'a pas vu de campagne sollicitée comme Choco Suisse, vous savez, le petit gamin avec son poisson rouge. C'est une campagne parmi un océan de pubs catastrophiques qui ne travaillent alors que sur l'hémisphère gauche, que sur le rationnel, qui ont oublié que derrière une bonne idée, on parle de storytelling. Storytelling, c'est quoi? Déjà, ça part d'une émotion. Et il n'y a pas d'émotion s'il n'y a pas de création, s'il n'y a pas de prise de risque. La pub télé, elle sert à quoi? Elle sert d'abord à faire émerger les marques. Mais faire émerger les marques, c'est aussi les différencier par rapport aux autres et créer un souvenir, et un souvenir positif. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de souvenir et pourtant, il y a de plus en plus d'investissements.
Et c'est de plus en plus difficile face à la profusion de produits, de nouveautés?
Oui, c'est difficile parce que c'est vrai qu'une nouveauté chasse l'autre. Alors bien entendu, toutes les nouveautés ne se valent pas. Et encore une fois, nous, on est vraiment très pointu pour en plus, dans la publicité, on pense que ce sont des créatifs fous qui lancent leurs idées, comme dans 99 francs. Mais c'est complètement dépassé, cette histoire. Il y a un institut qui s'appelle l'ARPP, et qui montre à quel point la publicité est totalement autorégulée. Vous savez, on a une responsabilité énorme quand on est publicitaire. On peut pas sortir tout n'importe quoi, parce que sinon, on va vers les fourches caudines du fameux CSA que vous connaissez.
Michel Démurgé.
Ah, moi, je suis très impressionné. C'est un discours qui est extrêmement rodé.
C'est pas un discours, c'est une réalité.
Je très bien. Je sais pas si les gens sont consentants. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. C'est d'informer honnêtement les gens sur ce que ça fait. Et ce que ça fait, il y a. Alors, vous parlez de l'autorégulation, par exemple. On sait, il y a eu un rapport de l'OMS épais comme un annuaire, qui montre que l'autorégulation, ça ne marche pas. Il y a un très bon exemple en France où, après qu'on ait proposé une loi pour réguler la publicité alimentaire au pourtour des programmes jeunesse, cette loi a été retoquée. Les gens se sont dit, nous, on va s'autoréguler. Ça a duré quelques semaines. Et de façon intéressante, c'est que il y a une étude qui montre que les enfants, ils regardent certes les émissions jeunesse, mais ils regardent aussi beaucoup d'émissions considérées tout public. Et ce qui a été enlevé des émissions jeunesse en programme ciblant les enfants, c'est reporté précisément sur les tranches horaires où les enfants regardaient des publicités adultes. Donc je sais pas si cette autorégulation marche. En tout cas, l'OMS montre, et plein d'études montrent, que ça marche pas. Ensuite, la question de savoir si c'est bien ou mal, moi, elle m'intéresse pas. La question de savoir, il y a une très belle étude d'un chercheur de l'Université de Californie qui part du fait que l'obésité a triplé depuis 20 à 30 ans, et il s'est demandé, 30 à 40 plutôt, et il s'est demandé quels sont les facteurs qui obéissent à ça. Et les publicitaires, un certain nombre de lobbies vont nous expliquer, c'est les prix parce que la junk food est pas chère, les légumes c'est cher, ils vont nous expliquer que c'est manger et bouger. C'est des facteurs qui comptent, mais pour une part très secondaire. Le facteur numéro un d'explosion de l'obésité dans le monde, et notamment dans les pays développés, c'est le poids du marketing. Non seulement en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs. Je sais pas si les publicités sont ridicules maintenant, mais elles sont de mieux en mieux ciblées. Elle marche de mieux en mieux parce que c'est pas seulement la publicité et les spots, c'est les placements de produits dans les films qui ont sur les enfants un effet absolument massif, majeur et monstrueux.
Franck Tapiro.
Oui, mais moi je parlais évidemment de contenu, vous me parlez, et c'est totalement complémentaire ce que vous dites à la réponse que je vous ai donnée. Parce qu'il y a le contenu en tant que tel, il y a l'idée, hein, il y a le message qu'on fait passer, et après il y a son environnement, là où il est placé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a inventé plein de techniques comme la programmatique, le ciblage intuitu personné, qui permet d'être plus efficace en termes d'impact. Ce que vous dites, je suis totalement d'accord. Vous savez, j'ai signé il y a des années de cela avec Jacques Seguela une tribune qui s'appelait Trop de pub tue la pub, et on était absolument deux publicitaire, et il y en a eu d'autres depuis, qui montrent que la publicité, on l'adore, mais parce qu'elle sait bien faire. On déteste quand c'est du gavage, on déteste quand c'est vraiment du harcèlement. Vous savez, une pub, c'est une bonne nouvelle. Quand quelqu'un vient vous annoncer une bonne nouvelle, il faut qu'il ait un grand sourire. Quand il vient vous enfoncer votre porte, vous avez envie de le rejeter.
Mais ce qu'il sait bien c'est faire, ça, c'est vendre. Il ne faut pas nous faire croire que la pub, c'est pour amuser les gens. Elle est là pour vendre.
Mais il n'y a pas que des mauvais vendeurs, il y a aussi des très bons vendeurs.
Il y a des très bons vendeurs.
C'est ça qu'on essaie de devenir. Je suis d'accord avec vous.
Quelles méthodes sont utilisées pour bien vendre?
On est d'accord.
Bernard Roulet, en duplex de Rennes, je rappelle que vous êtes spécialiste en neuromarketing du consommateur. Vous vouliez intervenir?
Oui, pour rappeler que lorsqu'on parle de publicité alimentaire, on pense naturellement à la radio ou à la télévision.
Bien sûr.
On oublie un média qui émerge depuis quelques
Internet.
Années, qui est l'Internet, qui, si je me trompe pas, est passé à la deuxième place en France, en tout cas, à la première place dans d'autres pays. Souvent, l'Internet est sous le radar, en quelque sorte. On prête attention à des publicités, des spots publicitaires, parfois assez médiocres, effectivement, qui passent à la télé. On oublie de rappeler que des milliards et des milliards d'euros sont dépensés en achat d'espace sous forme de bannières, de flotteurs, de pop-up, de fenêtres diverses et variées qui apparaissent sur Internet. Et là, le contrôle est naturellement beaucoup plus difficile parce que autant on peut demander à son enfant de ne pas regarder la télévision ou d'éteindre la télévision, autant il est plus difficile à son enfant de ne pas regarder la tablette ou le téléphone ou l'ordinateur.
Michel Démurgé.
Si je peux me permettre, juste pour Internet, il y avait une information hier qui est bien là-dedans, qui est sortie dans The Australian, qui a été reprise par les journaux français, qui montre que Facebook a développé un algorithme à partir des réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Donc ils ont développé un algorithme à partir des réseaux sociaux, ils arrivent à inférer l'émotion des adolescents, notamment la dépression, le mal-être. Et ces choses-là, ils l'ont proposé à un certain nombre d'annonceurs, de vendeurs, d'industriels, pour pouvoir cibler leur publicité sur ces, notamment des publicités sur ces adolescents-là. Et vous me permettrez de trouver quand même ces démarches absolument immondes.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà.
Les publicités ne sont pas responsables de retour.
Non, mais ça fait partie de la publicité aussi.
Mais ça fait partie d'une forme de publicité, mais il n'y a pas que des publicitaires qui font la publicité. On parle par exemple de l'anorexie dans certaines affiches, certaines annonces utilisées par des grandes marques. Il n'y a pas un publicitaire derrière, parce que certains directeurs artistiques de grandes marques travaillent directement avec les médias. On tape sur la publicité, c'est normal parce que c'est notre métier, mais on est totalement contre cela, donc vous allez voir qu'on va être plus d'accord que vous l'imaginez à la fin de l'émission.
Guillaume Lamar, vous êtes spécialiste en storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. C'est un ensemble de techniques et de compétences pour créer et raconter des histoires. Ces techniques narratives sont au cœur de la stratégie des marques, et des marques alimentaires en particulier.
Pas toujours, en fait. La réalité des choses, c'est que tout le monde parle du storytelling, mais très peu de marques en font réellement, et très peu de marques en font de qualité, parce que c'est très compliqué à faire.
Pourquoi c'est compliqué ?
C'est compliqué parce que il y a une écrivaine, Anne Lamotte, une écrivaine américaine, qui dit que raconter une bonne histoire, c'est aussi agréable et aussi faisable que de donner un bain à un chat. Raconter une bonne histoire, et surtout dans le cadre d'une démarche de communication, c'est très très compliqué. Comme disait Franck, il faut faire passer des émotions avant tout, il faut être capable de planter un décor, enfin voilà, c'est tout un tas d'astuces, d'artifices qui sont très compliqués à mettre en place. Moi, votre discussion, elle me fait penser quand même aussi à Barthes, enfin, on revient à mythologie, et à ce qu'il disait sur les mythes. Il disait que les mythes, en fait, pour finir, on les consommait. Il y a une fonction d'usage de l'histoire, en fait, du récit qu'une marque raconte, et nous, en tant que consommateurs, on aime autant consommer le produit que l'histoire qu'il nous raconte.
Prenons un exemple, Guillaume Lamar, l'eau pétillante Kézak, qui mettait en scène une petite fille, et on se souvient tous du slogan « Eke sapelerio Kézak », hein, je le fais bien. Quelle histoire nous racontait cette publicité ? Quel est le storytelling ?
Le storytelling derrière ça, alors là, pour le coup, il est plus dans la mission que s'attribue Kézak, en fait. Maintenant, le storytelling est devenu un terme très large. Il regroupe, en fait, tous les moments d'expression qu'une marque a avec ses points de contact, avec son public. Kézak joue sur les valeurs, elle joue sur la légende du Gévaudan, elle joue sur la nature, elle joue sur... Mais comme beaucoup d'eau minérale, en fait. Et ils ont trouvé ce personnage qui...
Très important, la petite fille,
tout à fait, et qui s'exprime dans une langue locale. Donc voilà, il y a quelque chose de très fort là-dessus. Et ils ont même continué le récit là-dessus, en faisant revenir cette petite fille, maintenant désormais adulte, et donner cette image de la transmission. Donc... Le spot en lui-même n'est pas du storytelling en tant que tel, mais en tous les cas, les valeurs de la marque sont, ils font semblant de jouer sur l'artifice de la légende, de quelque chose qui s'inscrit dans la tradition.
Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000, par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Grand Bien Vous Fasse est préparé par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlio et c'est réalisé par Jérôme Boulet. Question-réaction 01 45 24 7000.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Sur l'étoile, soir se livre, fixe la lune en équilibre, tendre son âme. Et dans le club, la danse la triste, quand lui s'élance le disotiste, quand passe l'heure qu'il espère. Qui l'enlace et qui prend son âme. Perdra celui qui désespère, un peu comme lui si sincère. S'ils écoutent enfin en frère. Quelqu'un vers qui tendrait son âme. Tant de voix fortes insistent à le faire descendre, lui résister. Le feront descendre s'ils insistent. Verront s'épandre un volcan triste, cendre et lave. Le sommet penché, il pique. Solides sont les allées publiques. Contre l'âme, les voix cognent et les coups des femmes attendent cela.
François and the Atlas Mountain.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h22, quand la publicité alimentaire nous raconte des histoires, c'est notre thème ce matin. On s'intéressera notamment au cas spécifique de la pub télévisée destinée aux enfants. Avec nous ce matin, le neuroscientifique Michel Desmurger, le consultant en créativité Guillaume Lamarre, le publicitaire Franck Tapiro et l'universitaire Bernard Roulet en duplex de France Bleu Rennes.
Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'Amérique au rayon. L'ami du petit déjeuner, l'ami rigolé. Dans la vallée du géant vert, petit pousserait du maïs qu'il préfère.
Le maïs du géant vert est toujours si tendre et si croquant, et chaque fois tellement différent, qu'on en mangerait tous les jours.
Oh oh oh,
géant vert.
Voyager, c'est découvrir de nouveaux mondes, ça oui. Mais je pense que c'est aussi découvrir de nouveaux goûts. Ma gamme de riz cuisinés Oncle Ben's s'inspire des meilleures saveurs du monde entier. Commencez avec mes riz cuisinés Oncle Ben's pour réussir, chez vous, de savoureux repas. Ben, un bon début pour de meilleurs repas.
Ne zappez pas, vous n'êtes pas sur Europe 1. Quelques sagas de pubs alimentaires. Alors, certaines de ces pubs chantées sont redoutablement efficaces, hein, Franck Tapiro. Il y a de moins en moins d'ailleurs des pubs chantées.
Et malheureusement, l'utilisation de la musique augmente non seulement la mémorisation, l'impact et puis l'agrément, on le sait. Bon, évidemment, il y a d'autres chansons publicitaires qui sont épouvantables et dont on se souvient pour les chambrer, comme on dit. Ça devient même des parodies. Mais en second degré, ça devient après culte. Hein. On voit certaines campagnes qui marchent bien. Et c'est vrai que la musique est un des insights nous créatifs qu'on utilise le plus.
Insight, c'est quoi ?
Insight, c'est en fait ça se prend dans deux sens. D'abord, c'est une information qui peut venir, on va dire, du marché de la part des consommateurs, et on chope en fait quelques petites tendances en disant tiens, sur cet angle-là, il y a vraiment quelque chose à faire. Par exemple, sur une consommation d'un produit alimentaire, on va découvrir qu'une telle méthode marche mieux. Là, quand je parle d'insight créatif, c'est aussi une démarche des outils créatifs. Et on sait que dans les outils, vous savez, il y a une palette extrêmement large. La musique n'est pas assez utilisé. À chaque fois qu'on l'utilise, on dit « Ah, comme tout à l'heure, hein, il suffit de nous écouter, on peut répéter au bout de la première phrase. » Non seulement on se souvient de la marque, de la chanson, et puis il y a un souvenir positif avec la musique. Moi, dans toutes mes conférences que je fais sur la créativité, je commence à peine les deux premières notes et toute la salle en chœur entonne le jingle ou la musique d'une publicité connue.
Bernard Roulet en duplex de Rennes.
Oui, je souhaitais juste rappeler qu'effectivement, pas toujours tenu de faire de grandes études très approfondies pour avoir une publicité créative. Je pense en particulier à Richard Gottener, qui en son temps a su concevoir des jingles tout seul dans son coin, si je puis dire, et avec un impact maximum, aussi bien pour des boissons aux fruits que pour des plats en conserve.
Et c'était diaboliquement efficace, hein.
Et c'était diaboliquement efficace.
Guillaume Lamarre, là, on a assisté à quelques storytelling, Géant Vert, l'Amérique Corée. C'est très efficace.
C'est très efficace. Alors, il y avait aussi une grande part d'animation là-dedans, de dessins animés. Donc, c'est vrai que, comme disait Franck, c'est une fabrique de souvenirs en fait. C'est là-dessus où on joue sur les émotions, où on crée un ancrage avec son public qui est très profond. Et ça parle particulièrement à des gens de notre génération. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent le principe sur les marques alimentaires, quand ils peinent à trouver une mission en fait dans leur positionnement, dans la façon d'exprimer leur marque, ils utilisent des mascottes. Et le géant vert en était une. Il y avait Gros Quick de Nesquik, enfin qui a été remplacé ensuite par un lapin. Enfin voilà, tout ça permet d'incarner la marque, d'incarner un certain nombre de valeurs, et surtout ça permet de plaire au plus grand nombre, bien sûr.
Michel Desmurger.
Je suis le réactionnaire du groupe, hein, oui. Si j'ai l'impression, mais
on sent que vous bouillonnez là.
Il en fallait, ouais, parce que je comprends que ce soit merveilleusement créatif, je comprends que les gens qui font ça sont merveilleusement malins, je comprends qu'ils connaissent leur domaine parfaitement, ces gens-là. La question, c'est pourquoi on fait de la publicité ? Donc, si on me dit que c'est merveilleusement efficace, c'est ce que tout le monde reconnaît à cette table, c'est faire de la publicité pour des produits...
On a dit diaboliquement efficace aussi.
Diaboliquement efficace, c'est le bon terme, dont on sait pertinemment qu'ils vont pourrir la santé de nos gamins et qui sont en train de pourrir la santé des gamins, c'est marque ce storytelling. C'est bien quand Nutella, on me dit... alors je sais plus, je l'avais noté. Voilà, Nutella, c'est plein de noisettes et de bon lait. Nutella, c'est 10% de noisettes et 5% de lait. Et le reste, c'est du sucre et du gras.
Il n'y
a pas pire bombe calorique pour un gamin. Donc que la publicité soit un outil merveilleux, que ça soit développé par des gens brillants et hyper créatifs, je veux bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi et comment on peut l'utiliser pour promouvoir des produits et des ventes de produits et la consommation de produits, parce qu'il y a quand même un lien direct entre la consommation de ces publicités, l'obésité chez l'enfant et l'obésité infantile, c'est l'un des facteurs essentiels de l'obésité tardive chez l'adulte.
Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Non, je vais vous dire pourquoi, mais vous adressez malheureusement pas la bonne personne. Je vais vous dire pourquoi. Les gens consomment la publicité avant de consommer le produit. Vous êtes d'accord? Deuxièmement,
pas vraiment, parce que
d'abord on consomme la pub et c'est ce qui nous donne.
Non, parce que les placements de produits, c'est de la pub masquée dans les films.
Je parle pas que de ça, je parle de la publicité. Non,
je parle aussi de ça.
Bien entendu, mais on va en parler derrière. Mais la publicité, d'abord on la consomme, ensuite on va consommer le produit. Nous, encore une fois, on prend que ce qu'on peut obtenir. On a des marques qui viennent nous voir avec leur bonne foi, leurs études, leurs recherches et nous présentent des produits. Nous ne sommes pas responsables, encore une fois, je me défausse pas, mais nous ne sommes pas responsables de la qualité intrinsèque du produit s'il est mis sur le marché. Sachant que, vous savez qu'avant de sortir un produit alimentaire, vous le savez, il y a énormément de références, de normes ISO, etc. Et avant d'arriver à mettre un produit sur le marché alimentaire, c'est compliqué. Aux États-Unis, c'est des années, parfois même d'ailleurs des siècles, ils n'y arrivent pas. En France, c'est très compliqué. Puis il y a l'Europe, n'oublions pas. Donc, nous, quand on obtient la chance de communiquer pour un produit, on ne se pose pas forcément cette question-là. Je le comprends, hein, encore une fois. On se dit que, en toute bonne foi, c'est un bon produit, on doit le communiquer de la meilleure façon possible.
Vous avez besoin de manger. La question, c'est
aussi. On parle de consommation,
mais totalement. Je crois que les publicitaires, c'est pas les publicitaires qui sont en cause. C'est ce qu'on laisse faire vis-à-vis des gosses, c'est la promotion qu'on peut en faire aussi.
Et des produits.
Michel Desmurger, les enfants et les ados sont donc les cibles privilégiées des publicités qui vantent des produits sucrés. Les produits sucrés qui sont liés à la notion de plaisir. Quelles sont les zones du cerveau qui s'allument en rouge en cas de plaisir? Ça allume ce que l'on appelle le circuit de la récompense?
Oui, ça allume un certain nombre d'aires qui sont liées effectivement aux zones du plaisir, aux zones de la récompense, liées à un neuromédiateur qui s'appelle la dopamine. C'est des choses d'ailleurs qui, pour certains produits, sont étudiées avant de les mettre sur le marché. Il y a un savant dosage entre le gras, le sucre, etc. Pendant des années, il y a un papier qui vient de sortir dans JAMA, qui est un journal médical, où on nous explique que alors il y a eu le scandale des industriels du tabac, maintenant il y a le scandale des industriels du sucre, qui pendant des années ont payé des chercheurs, ont financé des recherches pour montrer que le sucre c'était pas mauvais, et puis surtout que ça avait pas de potentiel addictif. Et il y a quand même maintenant des études, notamment chez l'animal, qui montrent que si.
Donc la volonté des industriels de l'agroalimentaire, c'est de nous rendre accros, et notamment les enfants, dépendants aux produits qui nous procurent du plaisir. Le but, c'est quoi? C'est de créer un lien affectif très fort entre la marque et le jeune consommateur qui restera fidèle à cette marque.
Alors, le but, c'est de gagner de l'argent. Effectivement, oui, plus le lien est créé tôt et plus il va se percevoir. Il y a une très belle étude, juste en 3 secondes, si j'ai 3 secondes, où ils ont sorti un truc complètement invraisemblable. En Allemagne, c'était du ketchup à la vanille. Et personne prenait du ketchup à la vanille. Et il y a un segment de la population, une fraction de ce segment, pratiquement la moitié, qui utilisait massivement ce ketchup à la vanille. On s'est aperçu que c'est des enfants, ils ont cherché longtemps, on s'est aperçu que c'était enfants, ils ont été élevés au lait artificiel, et ce lait artificiel était parfumé à la vanille. Donc nos goûts alimentaires, on peut les changer, mais qui se constituent très tôt, ils nous suivent toute notre vie. Donc plus ces gamins sont chopés tôt, les gamins de 5 ans aux États-Unis connaissent 200 marques. C'est un truc de dingue.
Et Franck Tapiro, une fois devenu adulte, le consommateur sera très sensible aux émotions liées à l'enfance, aux émotions liées aux produits sucrés consommés dans l'enfance. C'est l'effet Madeleine de Proust.
L'effet vache qui rit aussi, puisque la vache qui rit, vous savez, c'est un produit qu'on consomme de tout petit jusqu'à l'âge à peu près de 13-14 ans. C'est extraordinaire, parce que ça suit un biorhythme assez proche des ados. Et au moment de l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? L'ado arrête de consommer de la vache qui rit. C'est comme une forme de rupture avec le lait maternel, avec cette évocation de la mère nourricière. Il retrouve la vache qui rit quand il est jeune parent, il le redonne à ses enfants. Et c'est, on va dire, intergénérationnel. Et on a cette boucle. Mais c'est vrai qu'une pause entre l'adolescence et l'état d'adulte. C'est assez curieux, comme quoi des produits aussi sont en matching total avec nous.
Bernard Roulet, en duplex de Rennes.
Oui, pour compléter ce qui a été dit, une expérience de neuroscientifique a été faite il y a quelques années sur des préadolescents et des adolescents, et on a vu à quel point ils étaient soumis à l'influence des pairs, autrement dit des leaders d'opinion de leur groupe d'âge. Il s'agissait d'une expérience réalisée sur un site musical d'internet. On leur faisait écouter des musiques qu'ils préféraient et on mesurait l'activité cérébrale lors de l'écoute de leur style musical préféré. Et on leur affichait ensuite le fait que sur ce site musical, soit une très forte majorité ou une petite minorité de personnes aimaient ou détestaient les musiques qu'ils ressentaient comme tout à fait agréables. Et ce qui était très intéressant, une fois que ces jeunes étaient conscients d'être à contre-courant, en quelque sorte, vis-à-vis de leur père, eh bien, on assistait à ce qu'on appelle à une dissonance cognitive, c'est-à-dire un conflit intérieur entre le circuit de récompense, j'aime cette musique, ça me fait plaisir, et l'opinion sur laquelle je suis à contre-courant, je ne suis pas du même avis que l'ensemble de mes pairs. Et ça a pu être mesuré lors d'IRM fonctionnel il y a quelques années. Donc c'est particulièrement intéressant, surtout pour conclure, c'est que plus l'âge avance, heureusement, on s'aperçoit qu'on prend de la distance par rapport à l'opinion des pairs, mais on se rend compte que sur la tranche d'âge 12-15 ans, c'est là où on est le plus sensible précisément à l'opinion des autres.
Guillaume Lamarre.
Oui, enfin, c'est très intéressant tout ça. Moi, on parle beaucoup de publicité, mais en fait, à l'ère du numérique, la spatialité, en fait, c'est-à-dire avant, on achetait des espaces publicitaires, on achetait des pages dans les magazines, il y avait des campagnes d'affichage. Maintenant, c'est remplacé par la temporalité. En fait, une marque, elle s'exprime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on parle de la publicité à la télé, mais il faut faire, et on l'évoquait en début d'émission, il faut bien voir que, justement, si on parle de storytelling et si on parle d'un récit raconté par une marque, il se déploie dans notre environnement, dans son entier, et sur les réseaux sociaux en particulier. Enfin, voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention.
À propos de storytelling, j'aimerais qu'on s'arrête sur le storytelling, le récit raconté par les biscuits princes qui jouent avec la notion de héros pour inciter les enfants à consommer des biscuits fourrés très sucré. Pour info, un biscuit prince, c'est 94 calories et 14 grammes de sucre, l'équivalent de 3 carrés de sucre. Pour vendre ces biscuits, Guillaume Lamarre, Prince de Lu détourne quelques idéaux valorisés dans l'imaginaire des enfants, la fougue, l'héroïsme, la force.
Exactement, les contes de fées, enfin, d'une façon générale. Mais c'est un angle de communication qu'ils ont plus ou moins abandonné depuis quelques temps. Et justement, pour contrer ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est maintenant, ils s'adressent plus aux parents. Et ils s'adressent plus sur la qualité nutritionnelle du produit et sur le fait qu'il y ait des céréales dedans et donc du coup ils ont changé
la farine.
Oui mais ils ont changé leur angle d'attaque. Au début ils utilisaient donc c'est ce personnage du prince qui allait terrasser un dragon, et maintenant on est dans un discours beaucoup plus soi-disant scientifique et soi-disant ciblé sur la santé.
Franck Tapirou.
Il y a quelque chose qui résume souvent la publicité. Parfois ça fait réagir beaucoup de personnes, j'espère que ça va être le cas. Mais la publicité, c'est l'art du mentir vrai. Pourquoi c'est l'art du mentir vrai? Parce que toutes les histoires qu'on raconte, évidemment, viennent de notre imagination. On est des créatifs, on a 10 secondes, parfois 15, 20 ou 30 quand on a la chance, pour inventer une petite histoire qui résume un message qu'on veut faire passer. Donc ça, on peut dire que c'est une forme de mensonge, c'est de la fiction. Mais au bout du compte, ça, c'est du mentir vrai. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est la marque, la réalité, c'est le produit. La réalité, c'est encore une fois les bénéfices de ce produit, les bénéfices prouvés scientifiquement. Alors, il y a peut-être des contre-enquêtes et je respecte complètement tout ce qui est fait, mais au final, cet art du mentir vrai, donc, ça montre à quel point les publicitaires sont totalement conscients que ce qu'ils font est un acte, non pas de manipulation, mais un acte de séduction. Et séduction, ça veut dire, c'est lui serrer, ramener à soi. Mais cet acte de séduction n'est pas forcément tout le temps tordu.
Alors, Michel Desmurgés vous regarde, Franck Tapirou, avec le regard du samouraï, prêt à vous trancher la tête. Là.
Mais cela étant dit, si vous me remplacez mentir vrai par mentir vraiment, je veux bien acheter votre expression. Quand vous dites aux parents que le Nutella, c'est bon pour les gamins parce qu'il y a du lait et des noisettes, c'est quand même un truc de dingue. Il faut quand même une mauvaise foi. C'est sidéral, je ne sais pas si c'est mentir vrai.
Je suis désolé, je reviens là-dessus. Hein. La responsabilité d'un comptoir publicitaire qui reçoit ce bénéfice produit, remontons sur la marque, mais le publicitaire ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être, vous parliez de prince et de héros, il ne peut pas être le super-héros des temps modernes à dire aux marques, attention, il faut dire des choses vraies, dire aux médias, aux neuroscientifiques. Le publicitaire essaie de faire ce qu'il peut.
Bonjour Manuel, vous appelez de Silfiac, bienvenue.
Bonjour.
Que vous inspire notre thème du jour? Vous vouliez évoquer une publicité en particulier?
Moi j'ai vu une évolution dans la publicité. Je voulais parler par exemple de la pub de Kinder Bueno, où je trouve qu'il y a un glissement moral, en fait, où avant les publicités, je trouve, montraient un côté généreux, un côté où le produit allait donner un plus en fait. Et aujourd'hui, en fait, bah, par exemple dans la pub de Kinder Bueno ou de une autre pub de Seat que j'ai vu aussi avec l'histoire du Wi-Fi là, c'est qu'en fait Kinder Bueno c'est tellement bon que ça pourrait nous rendre méchants. Et quand j'entends Monsieur Shapiro en fait qui explique qu'en fait une publicité c'est un petit peu comme un film. Mais c'est pas du tout un film, c'est-à-dire que les gens ils vont la voir 100 fois, 200 fois et je trouve qu'au bout d'un moment, il y a des messages qui passent qui peuvent être assez bizarres et je trouve aussi que ça peut être un petit peu à l'image de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on va mettre les gens en concurrence ça, pour les stimuler, pour les forcer à regarder et même à l'intérieur d'une famille, c'est-à-dire qu'un gamin peut dire à son père que sa voiture a été emboutie pour aller lui piquer son Kinder Bueno. Et je trouve qu'au bout de 200 fois, ça commence à aller, en fait.
Michel Desmurgés boit du petit lait, mais la parole à la Défense, Franck Tapiro.
C'est pas seulement la Défense, parce que moi je partage une partie de ce que vous avez dit. Ce qui m'a le plus choqué dans cette pub, c'est pas seulement qu'il prétexte que la voiture a été emboutie, c'est que la voiture a été emboutie par la mère. Et on est encore dans un vieux cliché, fantasme, les femmes savent pas conduire, etc. C'est ça qui me choque moi le plus. Parce que dire méchant, bon, c'est une petite méchanceté, c'est de la cruauté, je suis d'accord avec vous, c'est pas ce qu'il y a de plus positif. Mais c'est derrière l'image sous-jacente de machisme incroyable qui montre que les femmes emboutissent les bagnoles, c'est normal, et le mec s'énerve en plus.
Merci beaucoup Manuel de nous avoir appelé. De Sylvia, que n'hésitez pas à réagir au 01 45 24 7000.
Ali Rebéi sur France Inter.
Unchain my heart,
unchain my heart,
baby let me be.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
cause you don't care about me.
Unchain my heart,
you got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby let me go.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
cause you don't love me no more.
Unchain my heart,
every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance,
like a man in a trance,
but I know darn well,
that I don't stand a chance,
so unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way,
unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me that day,
unchain my heart,
why lead me through a life of misery, when you don't care about a beat for me. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell,
I'm under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance,
wow, you know darn well,
I know darn well,
that I don't stand a chance,
that I don't stand a chance,
so unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way,
unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
you bury me night and day,
unchain my heart,
why leave me through a life of misery, when you don't care about a beat for me. So unchain my heart, please, please set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Whoa, set me free.
Qu'est-ce que c'est bon, Ray Charles, Unchain My Heart à 10h41.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
sur France Inter.
10h41, quand la publicité alimentaire nous raconte des histoires, c'est notre thème ce matin. Et on s'intéresse notamment au cas de la pub télévisée destinée aux enfants. Avec nous ce matin, le neuroscientifique Michel Desmurger, le consultant en créativité Guillaume Lamarre, le publicitaire Franck Tapiro et l'universitaire Bernard Roulet en duplex de France Bleu Rennes. Bernard Roulet, quels sont les éléments de base pour qu'une publicité alimentaire retienne l'attention d'un consommateur? Les couleurs, évidemment, les sons, le packaging, le rythme jouent des rôles décisifs.
Tout ça compte, effectivement, mais les postures, les gestes, les regards comptent également. Mmh. J.J. Gibson, en 1979, a eu une prescience, un insight extraordinaire en parlant de la notion d'affordance, c'est-à-dire le fait, en voyant un objet connu, il activait en quelque sorte une prémobilisation motrice permettant de se servir de cet objet. Et quelques 20 ans plus tard, grâce à l'imagerie cérébrale, on s'est rendu compte que, en particulier des chercheurs italiens, ont découvert redécouvert les neurones miroirs, donc les canoniques, et sont rendus compte que lorsque on voit quelqu'un agir, faire un geste particulier, diriger son regard vers quelque chose, eh bien, notre cerveau se met en écho avec cela. Et par exemple, on a ce qu'on appelle des aires prémotrices, des aires motrices associatives qui se prémobilisent lorsqu'on voit accomplir un geste. Donc ce qui veut dire qu'en matière de publicité visuelle, par exemple, il vaut mieux mettre un produit en situation, porter une cuillère à sa bouche, mettre quelque chose dans la bouche, plutôt que simplement décrire ou montrer le produit.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la couleur qui aide le consommateur à se repérer dans les catégories et les familles de produits. Dans le domaine de la publicité alimentaire, y a-t-il, Franck Tapiro, des couleurs qui sont rédhibitoires?
Rédhibitoire,
oui.
En pub alimentaire.
Plus trop maintenant.
Non, parce que à une époque, on utilisait beaucoup le rouge et le vert, ne serait-ce que pour distinguer parfois même pour le beurre, hein, le beurre doux, beurre salé. Après, dans les paquets aussi de céréales. On utilise le noir, alors que le noir à une époque c'était quand même un peu négatif, mais on utilise le noir pour montrer que c'est du chocolat noir par rapport au bleu qui est le chocolat au lait. Donc il y a plein de codes en fait en fonction des produits où toutes les couleurs finalement sont utilisées. On voit le jaune évidemment qui est toujours là, mais plutôt sur les côtés plutôt promotionnels. Le orange aussi, orange, rouge, jaune sont toujours présents, des couleurs très chaudes, mais le bleu et le vert sont là pour distinguer des catégories de goûts différents.
Et je pense par exemple à la marque Carte Noire qui a utilisé la couleur noire, qui a cassé les codes du secteur. Les codes du secteur, c'était plutôt l'utilisation du rouge ou du bleu. La mise en scène du noir de la marque Carte Noire donne tout de suite une connotation luxueuse.
Alors, je peux vous en parler parce que je me suis occupé de la marque pendant 8 ans chez SCG. On a choisi le noir en fait tout simplement pour distinguer et différencier le Carte Noire des autres en lui donnant un look et une allure de parfum.
Ouais. Et en fait, donc quand le on luxe.
Pardon, absolument. On allait dans le luxe, on allait dans un café nommé Désir, Try to Remember, chanté par Harry Belafonte. Les publicités étaient des pubs parfums. D'ailleurs, à l'époque, je m'occupais de Miss Dior. J'avais lancé Samsara de Guerlain. Et juste après, j'ai pris Carte Noire. Et on me dit, voilà, on veut que tu fasses la même chose pour le café. Donc, c'est une volonté de se distinguer et d'être un produit de luxe.
Et Guillaume Lamarre, plusieurs marques se sont engouffrées dans la brèche, comme Nespresso. D'ailleurs, quand on entre dans une boutique Nespresso, on a l'impression d'entrer dans une bijouterie haut de gamme où l'on vend le café quand même à 50 ou 60 euros le kilo. Hein.
C'est exactement la même idée. En fait, en utilisant des couleurs sombres, on rentre tout de suite dans le royaume du haut de gamme.
Ça nous raconte quoi comme histoire, Nespresso?
C'est tassant. Nespresso, ils ont du mal à raconter une histoire en dehors de leur mascotte, comme Gros Quick. George Clooney est une mascotte pour Nespresso. Alors, ce qu'il y a d'intéressant...
C'est pas encore Gros Clooney.
Non, c'est
Quick.
Pas encore
George Quick.
C'est pas encore. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, pour le coup, ils font appel au storytelling dans leur spot. Et ils font appel en utilisant à chaque fois, c'est marrant le parallèle exactement le même qu'avec Nesquik. À chaque fois, on veut voler le café de George Clooney. C'est à peu près la même idée. Donc, on est dans cette espèce de quête où on lui a volé son bien, où on veut lui prendre et où il faut qu'il le récupère. Donc, c'est à peu près la même histoire.
Bernard Roulet.
Oui, effectivement, la couleur a pour but d'une part d'amener des connotations d'image ou de niveau de gamme, mais ça, ces connotations sont fluctuantes dans le temps. Hein. L'orange a été très bas de gamme il y a quelques années et revient en force, mais les couleurs servent essentiellement également, en grande surface par exemple, à générer une capture attentionnelle. Et pour revenir au secteur des yaourts qui a été évoqué tout à l'heure, on se souvient qu'il y a quelques années, la marque BEA, qui n'est plus vraiment distribuée aujourd'hui, la marque BEA a cassé le code couleur des yaourts et des ultra frais à une époque en proposant des yaourts bleu marine dans un univers blanc et bleu ciel. Ensuite, un grand groupe français l'a suivi en proposant un yaourt au bifidus actif vert foncé. Mais la porte effectivement était ouverte et ce choix de couleurs complètement contraires ont permis de plus grande reconnaissance de la marque en rayon.
Franck Tapiro, quand une marque réussit à nous raconter une bonne histoire, le consommateur a nettement moins l'impression de se faire manipuler, influencer. Et je rappelle d'ailleurs que la manipulation, c'est pas forcément négatif.
J'allais vous le dire, il faut l'admettre, la publicité, le marketing et tout le boulot qu'on fait dans la société de consommation est une forme de manipulation, bien entendu, et d'influence, encore une fois, que nous voulons le plus la plus bienveillante possible. Une manipulation, c'est pas forcément tordre le bras des gens, les attraper par la nuque et les obliger à manger. C'est leur donner envie, c'est créer du désir. Donc après, on peut le critiquer tant qu'on veut. Nous, on essaie de le faire de cette façon-là. Et je peux vous dire que les grandes pubs, parce qu'il faut, quand même le rappeler, et les auditeurs pourront vous le prouver, les gens sont totalement publiphiles. Bien entendu, quand il s'agit de bonne publicité. Donc comme il y a de moins en moins de bonne publicité, c'est compliqué, mais les gens sont publiphiles. Quand vous les voyez à la nuit des publivores, quand vous voyez chanter des jingles de marques qui ont disparu depuis 20 ans, comme Chambourcy, qui a disparu depuis 20 ans, eh ben ils la chantent avec plaisir parce que c'est un bon souvenir. La pub, comme les marques, doivent donner un bon souvenir aux gens.
Stéphanie nous écrit par courriel, je suis de la génération culture pub, génération la nuit des publivores. J'aimais la publicité, mais aujourd'hui elle a pris un tournant malsain. Je ne regarde plus la télé depuis 3 ans, je me sentais gavé par trop de pubs avec des intentions malveillantes, culpabilité sur consommation. Voilà, Guillaume Lamar. Vous êtes aussi de la génération culture pub et génération...
Tout à fait, et c'est sûrement pour ça que je fais ce métier-là et que je m'intéresse autant au storytelling. Non, mais l'idée, c'est il faut pas raconter des histoires, il faut raconter une histoire. Donc voilà, c'est le principe de base. Et après, le faire le plus intelligemment possible et surtout prévenir au maximum des risques encourus par les consommateurs.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur l'impact de la publicité alimentaire sur les enfants, notamment la télévision. Les enfants sont particulièrement sensibles à l'impact de ces images, Michel Demurger, en raison notamment de la grande plasticité de leur cerveau ?
Oui, ils sont beaucoup plus perméables en tout cas que ne le sont les adultes, c'est-à-dire qu'ils reçoivent ces images un peu au premier degré. On a tendance à les frapper, les adultes on n'est pas conscient de tout, mais quand même on a un niveau de conscience un peu plus élevé. Les enfants on les frappe en dessous du radar conscient, on les frappe en dessous de la ceinture. Il y a une étude moi qui m'a frappé. Quand vous prenez, ils ont comparé des chaînes, des enfants qui regardaient une chaîne commerciale, enfin des chaînes commerciales avec d'autres chaînes qui sont non commerciales sans publicité, et on s'aperçoit que pour chaque heure regardée sur une chaîne commerciale, donc avec de la publicité pour des produits alimentaires, c'est 15% de plus quand même sur l'indice de masse corporelle, ce qui est énorme. Alors que les enfants qui sont exposés, qui ne sont pas exposés à ces publicités, l'indice de masse corporelle augmente un peu, mais pas significativement, et reste relativement stable. Voilà, quand vous mettez dans E.T., quand vous mettez E.T. qui mange des chocolats, ces chocolats particuliers, leur consommation augmente de 70% chez les gosses après. Vous mettez le même nugget dans une boîte McDonald's ou une boîte normale, il sort du même baquet. Et c'est, j'ai des chiffres là, c'est 60% des gamins qui vont vous dire que le Nuggets McDonald's il est meilleur.
La force
et
de la
5%,
marque.
La force de la
Coca-Cola
pub.
Coca-Cola et Pepsi-Cola.
Encore une fois, la question c'est voilà, pourquoi on utilise. La question c'est pas l'outil, c'est pourquoi on utilise ces outils-là. Je comprends que les publicités on les change et que qu'on les chante, que ça soit vachement sympa. Moi je me rappelle de Babar, je me rappelle de tout un tas de trucs. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait à nos gosses? Parce que c'est quand même ça la question finale. Je veux dire, on est quand même en train de créer des dommages qui sont quand même pas négligeables chez nos gamins.
Et j'aimerais citer une étude que vous citez dans votre ouvrage TV Lobotomie, Michel Demurger. Une étude menée il y a une trentaine d'années par Johan Galst et Mary Wright, ils ont observé des mères de famille et leurs enfants âgés de 3 à 11 ans qui faisaient leurs courses au supermarché. En une demi-heure, les enfants émettaient en moyenne 15 requêtes avec un taux de succès de 50% et le nombre de sollicitations était fortement corrélé au nombre d'heures passées devant la télévision. Les produits alimentaires demandés étaient ceux qui faisaient l'objet d'un fort matraquage publicitaire, bonbons, chips, boissons sucrées, biscuits. Bernard Roulet.
Alors, je pense qu'il faudrait rappeler effectivement que le cerveau des enfants n'est pas tout à fait terminé. Hein. La maturation cérébrale et corticale se fait aux alentours de 20-22 ans, ce qui veut dire que de jeunes cerveaux n'ont pas développé complètement leur cerveau, et en particulier une structure assez importante qui est le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est mature le plus tard et qui, justement, est là pour, en quelque sorte, filtrer des informations, contester des informations, peser, pondérer des informations. Donc, en quelque sorte, des enfants ont une porte mentale grande ouverte face à ces publicités-là. Autant on pourrait faire de la publicité librement auprès des personnes de plus de 20 ans, donc des personnes majeures qui ont un cerveau a priori mature. Par contre, on devrait être beaucoup plus prudent et réservé quant aux publicités destinées à de jeunes cerveaux pas encore tout à fait prêts à avoir l'esprit critique.
Michel Desmurger, question directe, faut-il interdire la publicité alimentaire à destination des enfants ?
Ouais, à mon sens, oui, je suis pas vraiment pour les interdictions. En tout cas, il faudrait clairement informer les parents de ce que ça fait. Il faudrait que les pouvoirs publics, mais ça avait été proposé depuis 2009, ça court, ces choses-là, toutes les associations, l'INSERM, le CNRS de recherche, toutes les associations de santé, l'association de cardiologie, de tout ce que vous voulez, les associations de consommateurs, tout le monde est d'accord sur ce fait-là, ou en tout cas était d'accord au moment où ce projet de loi a été déposé. Il a été retoqué pour des raisons. On vient nous dire, oui, mais tu comprends, ça mettrait un coût important au financement de l'audiovisuel public, si quelqu'un du CSA qui nous a dit ça. La question, c'est quelqu'un va payer. Donc, est-ce qu'il vaut mieux perdre un peu d'argent sur l'audiovisuel public et mettre à genoux la sécurité sociale parce que on parle de la publicité alimentaire, mais ça comprend les sodas, ça marche bien, ça comprend les alcools, ça comprend un tas de publicités et les effets sur les enfants et sur leur santé. Et quand ils viennent à l'âge adulte et majeur, donc oui, je pense qu'à un moment donné, il faudrait réguler ça, ouais. Au moins à destination des enfants.
Interdire non, réguler oui, mais déjà qu'on fasse une vraie campagne de com pour faire exactement ce que vous dites, une campagne d'information à destination des enfants. Et qu'après une pub de trois publicités de grandes marques alimentaires, il y ait un film de une minute qui explique avec un nutritionniste, d'une façon sympathique et créative encore, pour que ça rentre dans le cerveau, au môme, justement, ce que c'est que bien se nourrir. Et comme ça, ils pourront juger, ils pourront aussi avoir un contre-feu. Moi, je préfère de l'aïkido que de l'interdiction.
C'est comme manger, bouger, ça marche pas.
Ça marche pas. Parce que c'est nul.
L'OMS.
C'est très, très, très nul. Il faut le dire. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est nul.
Dans son rapport, l'OMS nous dit la seule façon de réguler, c'est de taper fort. C'est l'OMS qui le dit.
Pour taper fort, il faut balancer une information plutôt que d'interdire.
Cher
c'est
camarade,
plus fort, on fait de la pédagogie.
Il faudra revenir dans cette émission pour analyser le récit publicitaire que nous racontent les marques alimentaires. Merci d'être venu. Merci Franck Tapiro, Michel Desmurger, Guillaume Lamar et Bernard Roulet en duplex de France Bleu Rennes. À suivre la chronique de July Foyce. Il était une fois dans le web.
Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a Candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her, but we had to let her go.
Alexandra Savior, Mirage.
Les engrenages continuent de tourner.
Il était une fois.
Ça ne s'arrête jamais.
Dans le web.
Bonjour Julia Foyce, l'époque n'est pas très tendre pour ceux qui débordent de la silhouette autorisée par les canons de beauté. Elle devient même cruelle quand l'anonymat des réseaux sociaux permet de se lâcher. Et c'est l'histoire que vous nous racontez ce matin, Julia Foyce.
C'est l'histoire d'un paquet de chips caché dans l'armoire et hips, ça c'est le bruit du hockey, celui que la gorge fait quand on vient de se faire gauler avec la main dans le paquet par des caméras de télé. La main c'est celle d'une gamine, celle d'une petite coquine qui passe ses jours et ses nuits à franchir toutes les barrières, toutes celles que lui met sa mère entre elle et sa boulimie. Mélissandra, 10 ans, mesure 1m48 pour 83 kilos. Il se trouve que cet enfant a en plus une maman qui un jour en a plein le dos, certainement pas de sa fille, mais de ses kilos en trop. Alors quant à la télé, leur émission préférée annonce qu'elle s'intéresse aux troubles alimentaires, qu'il faut aller à confesse mais que ça pourrait aider. Mère et fille veulent témoigner. Cette émission, c'est tellement vrai, ça c'est son nom, parce qu'en vrai, c'est tellement compliqué de savoir ce qui tient de la réalité et ce qui n'est qu'une belle histoire qu'on aime se raconter le soir. Les séquences sont scénarisées et les images, elles, sont montées. Mais on s'en fout, c'est un peu de gloire, toujours bon, la notoriété. À une époque où le pire c'est de vivre sans pouvoir buzzer, autant mourir sans se faire liker. Et puis surtout, on est de bonne foi, ça va vraiment, enfin on croit, aider ceux qui sont dans notre cas. On se dit que notre témoignage, allant de partage en partage, fera peut-être bouger les choses, changer le regard. Alors on ose, on veut les caméras, qu'elles poussent la porte de chez soi, qu'elles scrutent au plus profond du moi. Et que donc, avec Mélissandre, elles se glissent, se faufiler entre, au plus près de sa boulimie, et ce jusqu'au bout de la nuit. Qu'elles suivent le fil de son envie, qui d'heure en heure grossit, de cette faim qui la tenaille, de cette angoisse, de ces failles, que seul un geste pourra combler. Un seul qui pourra l'apaiser, celui qui dans sa bouche met ses fameuses chips par paquet et des bonbons par tonnelet. Les céréales, ça marche aussi. Les artichauts et les omelettes, c'est elle qui le dit. À la caméra, toujours prête à s'abreuver des confidences de la fillette, ça fait de l'audience. Alors quand Mélissandre ajoute que parfois pour être rassasiée, elle mange même du papier et du plastique coupé, mâché, la caméra vient se goinfrer. Devant elle, une belle autoroute, c'est sûr, elle va pouvoir rouler dans la farine. La petite gamine qui continue à se confier, inconsciente que son addiction va bientôt l'amener tout droit dans le mur de l'humiliation. À 10 ans, elle ne prévoit pas que ses cris vont être poussés quand ils ne seront pas provoqués et que ses pleurs seront gardés, que bientôt ils seront exhibés. Non, la petite ne sait pas et sa mère ne s'en doute pas qu'aussitôt vue à la télé, elles seront aussitôt moquées, que bien des téléspectateurs se saisiront de l'émission pour leur faire une réputation, que ses multiples rediffusions feront d'elle une bête de foire, que seuls ses chips seront des stars, qu'on s'appropriera son histoire et que le net a une mémoire indélébile. Quatre ans plus tard, la petite est toujours la risée, des réseaux sociaux se creusaient de ce que la nature humaine peut aussi produire de plus laid, du petit mépris jusqu'à la haine. Et tant pis si ça fait de la peine. À la petite boulimique, on crée des comptes parodiques. Sur Twitter, on la fait parler, surtout on la fait se gaver. Et ces images, on les partage en prenant soin de les détourner, de ces photos, faire des montages et puis associer la gamine à tout ce qu'on aime détester. Oui, qu'elle n'ait pas la taille fine fait d'elle une monstruosité parce que chacun de ses bourrelets signe son manque de volonté. Dans ce monde où seule la maigreur a encore le droit de citer, les gros sont au-delà de l'erreur, coupables de faiblesse et honte. Face au déluge de commentaires qui finiront par l'écraser, Mélissandre ne sait plus quoi faire pour tout vous dire. Elle désespère. Elle voudrait pouvoir se cacher dans un trou de souris. Elle regrette, et même souvent, elle se maudit d'avoir un jour pu dire oui à toutes ces caméras de télé. Faut bien l'avouer, c'est cher payé. Pour toutes ces chips, même en paquet. Sa tante a fini par créer une page Facebook pour la soutenir et à tous nous rappeler, nous dire qu'il y a plus drôle que la boulimie, plus fun qu'une maladie, mais que personne n'est à l'abri de foncer sur un paquet de chips, même en cachette, même en pleine nuit.
Merci Julia Foyce. Il était une fois dans le web, c'est tous les mercredis dans Grand Bien Vous Fasse. Comment moins hyper consommer, c'est notre thème demain matin. Nous vous délivrerons quelques astuces en compagnie de nos invités. Nous aurons notamment en ligne Cyril Dion, le réalisateur du film Demain, co-réalisé avec Mélanie Laurent. Vous pouvez nous questionner. Grand Bien Vous Fasse, @radiofrance.com. Et puis dans quelques minutes, nous enregistrons une émission consacrée aux moyens de ralentir son rythme de vie pour se sentir mieux. Comment faites-vous? Dites-nous tout. Pareil, Grand Bien Vous Fasse, @radiofrance.com. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. À la technique ce matin, Ludovic Asselot et Pierre-Yves de Rolland.